France Inter. France Inter. Le 18-20. Éric Delvaux.
Ils ont entre 16 et 25 ans, l'âge du passage vers la vie adulte. C'est une étude de la Fondation des apprentis d'Auteuil qui nous a inspiré. Le thème du téléphone sonne de ce soir car une partie de cette jeunesse se sent exclue du débat public. Elle exprime même une sorte de défiance, en tout cas de méfiance envers les décideurs politiques. C'est un sondage Opinionway qui vient livrer son baromètre annuel pour la Fondation des apprentis d'Auteuil. 7 jeunes sur 10 se considèrent donc comme des citoyens de seconde zone. Alors on essaiera ce soir de comprendre pourquoi ce sentiment, pourquoi l'entrée dans la vie d'adulte se fait plus tardivement que dans les générations précédentes. On parlera ce soir de précarisation, de pauvreté, mais aussi d'engagement. La jeunesse dans l'angle mort de l'action publique, avec quelles conséquences, notamment sur la santé mentale de ces jeunes adultes. C'est donc le thème du téléphone sonne. J'attends vos questions, vos témoignages. Le téléphone va sonner jusqu'à 20h.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Avec un premier appel au standard, Olivier nous appelle de Saint-Ouen. Bonsoir Olivier.
Oui, bonsoir Éric Delvaux. Et puis je voulais, avant toute chose, souhaiter que Radio France continue de vivre. Et puis voilà.
C'est donc, un autre débat, mais merci. Merci de nous le dire.
Mais vraiment, je vous le dis très honnêtement, du fond du cœur.
Bah c'est très gentil. Vraiment. C'est très gentil. On va se recentrer sur le débat de ce soir. Votre question.
Tout à fait. Alors, je voulais commencer, même si mon âge est bien plus avancé que celui des personnes qui ont été interrogées, mais je voulais revenir un peu en arrière et parler de 2002, vous savez, où Le Pen était qualifié, Jean-Marie Le Pen était qualifié au deuxième tour, et où, il y a eu des manifestations très très importantes et où on a mobilisé la jeunesse. Et j'ai le sentiment qu'à ce moment-là, on s'est un peu payé leur tête et qu'on leur a fait croire qu'en participant à des manifestations, c'est comme s'ils étaient rentrés dans l'histoire en disant « on va barrer la route au fascisme ». Et je me demande si le fait de s'intéresser à la jeunesse aujourd'hui, en 2025, c'est pas parce qu'on se dit « merde, en 2027, potentiellement, Le Pen pourrait... revenir au pouvoir ». Et donc je me demande s'il n'y a pas un discours hypocrite de la classe politique pour s'interroger à la jeunesse, tout d'un coup se dire « tiens, ça serait peut-être intéressant de s'intéresser à cette jeunesse ».
Merci.
Et maintenant, maintenant je ne vais pas terminer. Et ce que je voulais dire, c'est que pour moi, il y a aussi... les politiques sont en partie responsables de leur désintérêt. Et je pense évidemment à ces problèmes d'écologie, d'inégalité, du partage des richesses, de l'avenir de cette jeunesse, de l'avenir des étudiants, etc. Et que pour ma part, ça fait des années que je ne vote plus et que mes rêves politiques se situent du côté de l'anarchie qui, comme disait Léo Ferré, c'est l'ordre moins le pouvoir, histoire de remettre les choses un peu à l'endroit.
Eh bien, merci de citer Léo Ferré ce soir dans une émission consacrée à la jeunesse. Et pour vous répondre ce soir, il y a 3 invités. Salomé Arbeau, vous êtes chargé de plaidoyer à la Fondation Les Apprentis d'Auteuil et cette enquête Opinionway que vous avez impulsée, on va en parler dans un instant. Cristal Lopez, bonsoir, vous avez 25 ans, vous habitez à Rouen en Normandie et vous venez de terminer votre doctorat en chimie et vous aurez un premier contrat, je crois, dans les semaines qui viennent au CNRS de Montpellier. Et votre témoignage de jeune nous sera précieux ce soir pour éclairer les auditeurs. Et puis Nicolas Duvoux, bonsoir à vous aussi, professeur de sociologie à l'Université Paris 8, Vincennes-Saint-Denis, vous êtes co-auteur de Jeunesse française contemporaine, co-rédigé, qui a été paru aux éditions CNRS, et vous êtes aussi spécialiste des questions de pauvreté, d'inégalité sociale et de... politique publique. Je signale aussi un livre plus ancien écrit en 2023 qui s'appelait pour les jeunes là aussi, le titre était L'avenir confisqué. Évidemment, on fera référence à tous ces thèmes ce soir. Cristal Lopez, je me tourne vers vous, 25 ans. Donc, alors on a entendu cet auditeur dire que les politiques ne s'intéressent aux jeunes qu'au moment de voter. On va parler de votre expérience. D'abord, quel regard vous portez sur les politiques, votre regard regard cautionne cette étude OpinionWay pour les apprentis d'Auteuil, la fondation Apprentis d'Auteuil, et ces jeunes qui se disent négligés par la classe politique. Vous partagez ce constat ?
Ouais, je partage.
Vous le partagez avec quel marqueur ? Qu'est-ce qui vous fait dire ça ?
Disons que les jeunes en ce moment ont plus de mal à se faire écouter, à se faire entendre surtout.
Et vous avez le sentiment, depuis longtemps, que la classe politique ne vous écoute pas, qu'il n'y a pas de place pour les jeunes dans le débat politique public ?
Mais c'est rare quand on entend des jeunes dans le débat. Enfin, on constate tous les jours.
Salomé Arbeau, vous êtes donc à la Fondation des Apprentis d'Auteuil et vous avez mis donc toute votre énergie pour que ce sondage voie le jour, sondage OpinionWay pour juger et jauger le sentiment des jeunes vis-à-vis de la classe politique. Et, vous attendiez à des conclusions, mais qu'est-ce qui vous a le plus étonné dans cette enquête OpinionWay ?
Alors peut-être pour resituer pour nos auditeurs, la Fondation Apprentis d'Auteuil, elle accompagne chaque année 40 000 jeunes en situation de fragilité. Et effectivement, des résultats du sondage ne nous ont pas forcément étonnés, puisque nous, on constate tous les jours dans nos établissements, ce que nous racontent les jeunes qu'on accompagne, c'est qu'effectivement, ils ne se sentent pas entendus, écoutés, considérés. Mmh. Et par rapport à la question de notre auditeur, effectivement, il y a plein de sujets qui touchent les jeunes au quotidien, notamment les difficultés d'insertion professionnelle, des jeunes qui peuvent être éloignés avec des difficultés de mobilité, des sujets de précarité, d'exposition aux violences, de santé mentale, qui ne sont pas forcément des sujets qui sont au centre du débat. Mmh. Donc on s'attendait pas forcément... Enfin, on s'attendait à ces résultats, pardon, mais on ne s'attendait pas forcément à des chiffres aussi massifs, puisque ce que dit le sondage, c'est qu'on a 84% des jeunes, donc une écrasante majorité, qui ne se sentent pas suffisamment écoutés par les politiques. Et 66%, donc 7 sur 10, qui se sentent relégués au rang de citoyens de seconde zone. Mmh. Donc voilà, une fois qu'on a posé le constat, qui est extrêmement grave et qui doit nous alerter, c'est qu'est-ce qu'on fait pour renverser ce sentiment et leur donner plus de place dans la société.
Alors on verra en fin d'émission, dans un second temps, effectivement, ce que propose la Fondation des Apprentis d'Auteuil sur le sentiment, quand même, qu'on va développer ce soir, le sentiment de cette jeunesse. Nicolas Duvoux, je rappelle que vous êtes professeur de sociologie à l'Université Paris 8, Vincennes, Saint-Denis. Tous ces jeunes qui ne se sentent pas considérés par la classe politique, comment notre auditeur parlait d'abstention ? Comment est-ce que ça se traduit d'ailleurs en termes d'abstention au moment de voter dans cette tranche d'âge, enfin dans les jeunes adultes en tout cas ?
Mais ça se traduit d'abord par un décrochage important en termes de participation électorale par rapport aux autres catégories de la population. Il y a plusieurs interprétations possibles. Soit il y a une interprétation générationnelle. On dit celles et ceux qui ont aujourd'hui des âges plus élevés en fait appartiennent à des générations où voter n'était pas une option. C'était quelque chose de beaucoup plus normal, de beaucoup plus naturel en quelque sorte. Où ça appartenait aux choses qu'il fallait faire dans la vie sociale. Ça, c'est un effet de génération peut-être. Il y a un effet d'âge aussi. Et une collègue a évoqué une sorte de moratoire civique en disant on prend plus de temps pour entrer dans la vie politique et citoyenne comme on prend plus de temps pour entrer dans la vie économique, dans l'emploi. L'âge du départ de chez les parents, de l'autonomisation résidentielle, c'est élevé. L'âge du premier enfant, c'est beaucoup élevé. L'âge de l'emploi stable, c'est aussi très nettement élevé. Et donc, au fond, ça sera en quelque sorte logique que la participation citoyenne suive cet écart dans le temps. Au fond, ça serait que reporté. Mais là, je dirais, c'est des interprétations qui sont intéressantes, mais qui ratent peut-être l'essentiel. C'est que c'est pas tellement l'abstention qui est importante, c'est le fait du vote intermittent. En fait, les jeunes votent, mais ils votent pas à chaque fois. Donc ils choisissent leur combat, si on peut dire les choses de manière imagée. Et donc ça, c'est à mon avis quelque chose d'important, parce que ça veut dire que les jeunes ne sont pas sortis de la participation politique, ils ne sont pas sortis du débat électoral. Mmh. Ils sont présents, mais ils sont présents d'une manière plus intermittente que les autres catégories de la population. Et évidemment, ça a des effets. Parce que si vous êtes du côté de l'offre, que vous voulez vous faire élire ou gagner une élection, en fait, vous allez miser sur les catégories de la population dont vous êtes sûr qu'elles vont voter à chaque fois. Et donc, les jeunes, c'est pas qu'ils soient abstentionnistes ou qu'ils soient sortis du débat, mais c'est qu'ils ont des pratiques politiques ou des pratiques d'engagement qui font que ceux qui sont présents ou celles qui se présentent n'ont pas forcément intérêt à adresser leurs préoccupations en priorité. Et donc, on se retrouve avec une situation objective, on en parlera, qui sur un grand nombre de sujets sujet fait que le sentiment qui est exprimé dans ce sondage, mais comme dans d'autres études d'opinion, en fait, il est vraiment fondé par des réalités.
On va aborder ces réalités. Christelle Lopez, on va pas faire de généralité, mais vous concernant, d'abord, envisagez-vous d'aller voter, de vous abstenir lors des prochains scrutins municipales en 2026, présidentiel 2027? Où est-ce que vous irez voter? Est-ce que vous le savez déjà?
Oui, j'irai voter.
Et vous savez pour qui déjà?
Non.
Je ne vais pas vous demander pour qui, hein, mais juste savoir si vous savez déjà pour... Alors, on ne connaît pas tous les candidats. Vous avez raison de me dire qu'on va attendre d'abord que tous les candidats se déclarent. On va retourner au standard avec Patrice qui nous appelle. Bonsoir Patrice.
Oui, bonsoir.
Vous êtes à l'antenne. Une question, un témoignage?
Disons que c'est une réaction par rapport à ce qui s'est dit. Moi, je n'ai pas l'impression que les hommes politiques s'adressent uniquement aux anciens, entre guillemets, lorsqu'ils font des discours et des projets. Quand quelqu'un vote un projet pour la Sécu ou pour augmenter le budget des armées, ça s'adresse à tout le monde. C'est pas uniquement à une certaine catégorie de Français ou de Françaises à partir d'un certain âge. Ça concerne tout le monde. Donc je crois que c'est une erreur de dire on oublie les jeunes. C'est un ensemble, c'est tout. C'est pour tous les citoyens et citoyennes.
Alors on aurait tort de dire que les politiques oublient les jeunes. On parlait ce soir du sentiment des jeunes d'être oubliés. C'est ce que montre cette enquête OpinionWay pour la Fondation des apprentis d'Auteuil. Salomé Arbaud, hier soir, les orphelins d'Auteuil ont organisé au Rex, à Paris, donc une grande soirée. Il y avait des jeunes qui sont montés sur scène pour exprimer, pour se raconter. Et tous ceux qui ont pris la parole n'avaient pas le même parcours que Christelle, doctorante en chimie, qui est là ce soir en studio. Qui a parlé hier soir?
Alors justement, Christelle, elle était sur scène hier soir.
Mais tous n'avaient pas le même profil.
Le but de cette soirée stand-up d'apprenti d'Auteuil, c'était de donner la parole à des jeunes qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, qu'on entend peu, voire pas du tout. Des jeunes qui peuvent avoir eu des parcours de décrochage scolaire, un passage en protection de l'enfance, des difficultés d'insertion. Donc pour donner et visibiliser cette jeunesse-là, qu'on entend beaucoup moins, et montrer que malgré la difficulté, il peut y avoir des parcours de résilience et des très belles histoires. Mais que pour ça... il faut pouvoir avoir des moyens tendus, des personnes qui les accompagnent au quotidien. Mais donc le but, c'était vraiment de leur donner le micro et d'écouter une jeunesse et des récits qu'on entend beaucoup moins.
Et à 3 mois et demi des municipales et à 1 an et demi de la présidentielle, quel message retenez-vous de ces témoignages hier soir? Ils ont parlé de politique ou pas?
Oui, on avait notamment Elsa qui était sur scène et qui a parlé de la difficulté de s'engager en tant que jeune. Alors elle est très engagée à titre personnel, elle a travaillé pour une asso qui accompagne des jeunes LGBT notamment. Elle a fait des distributions alimentaires quand elle était à la fac et elle a raconté que en fait les jeunes, ils ont envie de s'engager mais il faut leur donner aussi les moyens de le faire. Et quand on connaît notamment la précarité, quand on est une jeune étudiant, que peut-être dans des difficultés de santé mentale, et ben c'est aussi difficile de se tourner vers les autres et de dédier du temps. Et donc, sa conclusion, c'était de nous laisser le temps d'être jeunes et qu'on saurait le rendre plus tard dans la vie.
Nicolas Duvoux, quelles sont les raisons objectives que vous avez pointées qui peuvent expliquer ce sentiment des jeunes, d'une partie de la jeunesse en tout cas, de passer pour des citoyens de seconde zone?
Je vais d'abord rebondir sur une partie de la jeunesse. Vous avez dit cette jeunesse-là.
Et il faut en parler au pluriel, des jeunesses.
Il faut en parler au pluriel, parce que c'est pour ça que d'ailleurs le titre de l'ouvrage publié, qui est vraiment une synthèse, hein, c'est un ouvrage qui visait à faire un état des lieux. Le CNRS, donc l'institution de la recherche publique en France, avait commandé cette synthèse.
Jeunesse française contemporaine, tout au pluriel. Hein.
Tout au pluriel. Et tout au pluriel, c'est très important parce qu'on voit des disparités énorme entre les différentes catégories qui composent la jeunesse, avec une ligne de partage quand même très centrale autour de la possession, et du coup Christelle est vraiment du bon côté de la ligne, la possession du diplôme. Pourquoi? Parce que la question du diplôme est vraiment devenue, et des études, est vraiment devenue un marqueur extrêmement important on va dire, l'opposition entre plusieurs franges de la jeunesse qui vont avoir des destins extrêmement différenciés, extrêmement polarisé, avec je dirais, beaucoup moins de difficultés et beaucoup moins de distance avec l'engagement bénévole, par exemple, ou avec l'engagement politique pour la partie de la jeunesse qui est diplômée. Et donc, tout ce qu'on dit, effectivement, sur l'abstention, sur les choses assez générales, c'est beaucoup moins vrai si on différencie en disant, voilà, il y a la question du diplôme qui est vraiment un enjeu...
On va parler tout à l'heure de la question des territoires aussi. J'imagine que ce n'est pas la même chose selon qu'on habite en ruralité, en zone urbaine, ou bien même outre-mer.
Ou dans les quartiers, enfin, il y a dans les quartiers populaires, il y a beaucoup de différenciations, mais celle-là est quand même un marqueur... Et quand même un marqueur extrêmement important. Alors après, pour venir au fond de votre question, il y a deux critères majeurs qui font qu'aujourd'hui, la France est dans une situation, la jeunesse en France, avec cette précaution de la diversité, est quand même dans une situation difficile. La première, c'est l'exposition à la pauvreté. Je veux dire, quand on regarde par âge, les enfants, d'abord, les enfants sont toujours les enfants de leurs parents, ils sont calculés, ils sont comptés comme ça, et les jeunes adultes sont les catégories les plus pauvres de la population. Et pour une raison en partie simple, c'est que notre système de protection sociale commence à 25 ans. Le revenu de solidarité active, il est ouvert à partir de 25 ans. Il y a quelques exceptions avant, mais globalement, la société française, et c'est pas une fatalité. Il y a
des pays... Je peux faire une parenthèse dans votre démonstration. Dans les années 70, c'était les seniors qui étaient les plus vulnérables à la précarité, à la pauvreté. Aujourd'hui, vous nous rappelez que ce sont les jeunes, et notamment les femmes, pour d'autres...
Notamment les familles monoparentales, les femmes qui élèvent seules leurs enfants.
Je voulais vous demander, que s'est-il passé entre-temps ?
Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? Tout simplement, les systèmes de retraite sont montés en puissance. Ils n'étaient pas encore là dans les années 70. Et au fond, les personnes âgées étaient pauvres parce qu'il n'y avait pas de revenus qui venaient leur permettre de satisfaire leurs besoins. Et on voit revenir cette question de la pauvreté des retraités depuis quelques années. Je ferme la parenthèse, ce n'est pas le sujet. Mais donc, on voit un déplacement. Les retraités ont quand même été très fortement protégés par les évolutions du système. Et inversement, le chômage, mais peut-être plus encore que le chômage, la précarité de l'emploi, sont venus frapper massivement celles et ceux qui entrent dans la vie active. Et avec là, vraiment, le critère de l'éducation, du diplôme, qui va créer une différence radicale qui n'existait pas dans les années 70. Donc, je dirais, premier point, cette grande vague du chômage et de la précarité de l'emploi, qui est une espèce de grand test, quoi, de grande lessiveuse, dans lesquelles passent de très nombreux jeunes aujourd'hui. Et l'autre point, c'est qu'on ne protège pas les jeunes, parce que cette catégorie de la population...
Les protéger de quoi ?
Les protéger simplement du manque de ressources, du manque d'un accès à des droits sociaux comme les autres catégories de la population.
Christelle Lopez, je rappelle que vous avez 25 ans, que vous êtes une toute jeune doctorante, à peine diplômée, et ça date de quelques jours, je crois, le 25 novembre. Est-ce que vous vous sentez aujourd'hui protégée par votre diplôme, protégée socialement ? Est-ce que ça va vous donner un avenir ?
Ouais, je pense que oui.
Oui.
Je pense que ce diplôme-là, il va m'ouvrir des portes que j'aurais peut-être pas pu avoir, enfin, qui n'auraient pas été ouvertes avant. Et ce diplôme, j'ai réussi à l'avoir parce que j'ai été encadrée par les apprentis d'Auteuil, parce que grâce à eux, j'ai pu toucher une bourse. Et si j'avais pas eu cette bourse, j'aurais jamais pu faire des études.
L'une des grandes différences avec les années 60, et je me retourne vers vous encore, Nicolas Duvoux, on va retourner aux orphelins d'Auteuil dans un instant, évidemment. L'une des grandes différences avec les années 60, quand on parle de jeunes générations, et on les mettra au pluriel, c'est le nombre de diplômés qui a explosé. Quelles conséquences a eu cette massification scolaire ?
Deux conséquences. La première, c'est que c'est beaucoup plus difficile de vivre, de construire sa vie dans la société française aujourd'hui que c'était le cas il y a 50 ans si on n'a pas de diplôme. Pour une raison très simple, c'est que quand un bien ou un capital se massifie, ne pas l'avoir devient une pénalité extrêmement forte. Et ça, c'est déjà, c'est quand même quelque chose de très important. C'est pour ça que le grand clivage entre les diplômés et non-diplômés, et je pense que vous avez tout à fait raison d'avoir confiance dans votre diplôme, il va vous protéger sur le long terme parce qu'il vous a donné une clé d'entrée dans la société. Mais qu'est-ce qu'on fait des 100, 150 000 jeunes qui sortent chaque année du système scolaire sans titre, et donc avec un avenir qui, pour le coup, est très compliqué. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième réflexion, et c'est le deuxième point, je dirais le point noir de la société française, dont tous les gouvernements sont parfaitement au courant, c'est le fait qu'on vit dans une société qui affiche égalité sur le fronton des mairies, et qui a un système qui donne une grande importance au système scolaire dans l'organisation sociale, et c'est un système scolaire qui est organisé d'une manière à sélectionner les meilleurs. Au fond, la logique, c'est d'organiser la sélection, et du coup, c'est un système qui va vraiment renforcer les inégalités sociales et beaucoup moins les corriger que d'autres pays. Et donc, cette organisation qu'on retrouve, les universités d'un côté, les grandes écoles de l'autre, par exemple, ça n'est qu'un exemple, mais c'est un peu la logique du système qui vise à former très très bien peu de gens. C'était comme ça que c'était prévu, hein, donc ça a été fait comme ça, et puis on a tiré un peu tout le monde vers le haut, et donc ça veut dire que quand on a tiré tout le monde vers le haut,
la massification scolaire,
on a en fait déplacé, plutôt qu'annulé les inégalités entre les personnes qui rentrent dans le système éducatif, et ça crée évidemment quelque chose qui est très profond, parce que voilà, la jeunesse quand elle vote aussi pour par exemple le Rassemblement National. Statistiquement, c'est une réalité très importante, qui est d'ailleurs montrée dans les résultats.
Et aussi à l'autre extrême, j'allais dire.
À l'autre extrême, alors, avec d'ailleurs une polarité, les très très jeunes, c'est plutôt à la France insoumise, et puis un tout petit peu plus vieux, quand peut-être on s'est confronté à la dureté du marché du travail ou à d'autres choses, c'est le Rassemblement National qui prend la dominante. Mais c'est quand même ce fait de la confrontation à, je dirais, un monde social extrêmement dur quand on rentre, notamment du côté de l'emploi, et aussi, pour beaucoup, la blessure de ce qui s'est passé à l'école qui laisse des traces dans la vie.
On va retourner au standard avec une question de Catherine. Catherine est en ligne, bonsoir.
Oui, bonsoir. J'ai deux remarques à faire. La première, je travaille avec des jeunes et des adultes sur leurs projets, projets pro, projets de vie. Et je vois qu'en ce moment, les jeunes qui ont le plus le sourire et qui ont retrouvé l'enthousiasme et la motivation sont ceux qui font un pas de côté. C'est-à-dire que... je pense qu'il serait important de déformater un petit peu cette jeunesse sur le bac, les études, etc. Moi, je vois des jeunes qui ont des projets magnifiques, qui travaillent, qui font des saisons, qui partent en woofing après, et qui ont des envies différentes auxquelles on n'attache pas assez d'attention, je trouve. Mais franchement, en ce moment, c'est ceux qui ont le plus la banane. Pas en généralité, bien sûr, hein. Mais moi, je me rends compte qu'ils font vraiment un pas de côté. Le formatage est beaucoup trop important. Et la deuxième chose que j'ai envie de dire, c'est qu'on parlait tout à l'heure des abstentionnistes et des votes blancs. Et pour moi, c'est clair qu'un autre projet de société que celui-là viendra d'eux, ne viendra pas des urnes. Et je pense que c'est dommage qu'on n'aille pas écouter les propositions sociétales des gens qui votent blanc, des abstentionnistes. Ils ont des choses à dire aussi, jeunes et adultes.
Merci de ce témoignage et de ces deux idées. Catherine, je vais me tourner vers vous, Salomé Arbaud, pour la Fondation des Orphelins d'Auteuil. Catherine nous racontait qu'elle travaille avec des... Elle fait des projets, elle suit les projets personnels et professionnels des jeunes. Ceux qui ont la banane, dit-elle, sont ceux qui ont fait un pas de côté. Vous, à la Fondation Auteuil, qui êtes engagée dans la protection de l'enfance, vous accordez beaucoup d'importance à ce petit pas de côté de temps en temps ?
Oui, bah complètement. Alors merci Catherine pour cette question, parce que effectivement c'est toute l'ambition de ce qu'on fait à Apprenti d'Auteuil, c'est de se dire on peut pas demander aux jeunes de devenir des citoyens engagés d'un coup de baguette magique à 18 ans si on n'a pas créé les conditions de la participation dès le plus jeune âge. Et donc il faut leur donner des espaces de consultation, de concertation et même de co-construction pour leur permettre de prendre la parole et de proposer des choses. Et ça peut aller jusqu'à la construction de la politique publique. Je pense justement à Asmaï qui a témoigné sur scène hier soir. C'est une jeune qui nous vient de Mayotte et elle a participé à la CIVIS, donc la commission indépendante sur les violences sexuelles faites aux enfants. Et c'était un groupe de jeunes concernés qui ont construit des recommandations à destination des pouvoirs publics. Et donc, quand on demande aux jeunes, et notamment aux jeunes concernés par un sujet, leur avis, ils ont plein d'idées, plein de propositions super pertinentes. Et alors, c'est à nous de les appliquer derrière et de pas que ça ne reste pas lettre morte. Mais effectivement, c'est redonner du pouvoir d'agir aux jeunes en leur permettant de proposer des choses. Et en fait, ils ont plein d'idées, des idées super pertinentes. Si je peux donner juste un autre exemple, on a eu récemment une commission du CESE sur la question de la santé mentale.
Le Conseil économique, social et environnemental.
Oui, tout à fait. Et il y avait un groupe d'enfants qui avaient entre 12 et 18 ans qui ont fait des propositions sur la santé mentale. Et en fait, ils ont travaillé très longtemps et leurs propositions sont vraiment très très loin d'être délirantes. On avait la régulation des réseaux sociaux, l'accès gratuit, anonyme et illimité aux psychologues en milieu scolaire. Donc on voit que quand on leur donne la parole et qu'on crée les conditions d'une participation, et bien en fait, ils ont des propositions qui sont super pertinentes.
Pardon, parce que j'ai parlé des orphelins d'Auteuil, c'est bien la fondation des apprentis d'Auteuil. Pardon de faire cette confusion. Nicolas est en ligne. Bonsoir Nicolas, vous êtes dans le bassin d'Arcachon, je crois.
Oui, tout à fait. Bonsoir. Je suis jeune, mais pas très très jeune, hein, j'ai 57 ans, mais votre sujet m'a interpellé puisque j'ai 3 enfants. Alors je suis précisément dans un village, Le Porge, hein, qui est au nord du bassin d'Arcachon, donc dans la ruralité. Sur la question pourquoi les jeunes ne s'intéressent pas à la politique, en discutant avec mes enfants, qui quand même ils sont sensibilisés, mais se sentent exclus de par certaines décisions ou leurs difficultés par rapport à la mobilité, puisque dans la ruralité, la mobilité est très très compliquée, hein, dans notre vie. Village, on n'a pas de transport en commun pour bouger de village à village. On a un problème de logement aussi, notamment quand, par rapport au tourisme, on est une zone touristique quand même, hein, le bassin d'Arcachon, au sud. Il n'y a pas de logement pour ceux qui viennent travailler, hein, les saisonniers qui sont souvent des jeunes ou des étudiants. L'autre point qui est important, c'est que quand ils font des études, que ce soit CAP, BEP, Bac Pro, université, le logement social... le logement social est problématique. Le logement étudiant est extrêmement problématique. En plus, on leur sucre les APL. Donc, il y a un autre problème à ce niveau-là. Et finalement, quand ils rentrent sur le marché du travail, ils ont des salaires qui sont adaptés à leur âge. Donc, finalement, il n'y a pas trop d'égalité salariale à ce niveau-là. Et leur représentativité, que ce soit dans les institutions, dans les contre-pouvoirs, etc., est très très faible. On a très peu de jeunes députés à l'Assemblée. Le pourcentage de jeunes députés à l'Assemblée n'est pas équivalent à la représentativité réelle de la jeunesse dans la société.
Donc, non, mais cela dit, la tranche d'âge a baissé tout de même au Parlement. Mais vous avez raison, elle ne représente pas encore...
Et en fait, les seuls moments... Alors, j'ai entendu l'intervention précédente où, effectivement, quand on les concerte, ils ont leur mot à dire aussi, mais souvent, que ce soit dans les commissions extra-municipales, etc., à un moment ou un autre, bon, c'est bien beau, les jeunes, c'est bien gentil, mais bon, voilà, ce sont les jeunes.
Hein. Merci.
Donc, il y a ce côté-là. Juste deux derniers points.
Bon, moi, on va faire rapide. Deux, je suis pas sûr. Allez, un dernier, dites-nous.
Un dernier point. On entend toujours, non mais les jeunes, ils en veulent plus. Je l'ai entendu pour moi, mon père l'a entendu. Et il y a quand même ce discours, non mais les jeunes, ils en veulent plus, etc. Et donc,
ils n'en veulent plus, ils ne veulent pas travailler, si je résume.
Ils n'en veulent plus, ils veulent plus travailler, ils veulent plus s'impliquer, ils veulent plus être citoyens, etc. Et donc tout ça quand même fait que c'est un peu la dernière roue du carreau.
Merci.
Pourtant, c'est l'avenir de la nation et de la patrie.
Merci de ce témoignage, Nicolas. À plusieurs tiroirs, je vais retenir notamment la représentativité. Tiens, et je vais vous poser la question, Christelle Lopez. Aimeriez-vous qu'un jeune vous représente à la présidentielle, ou est-ce que l'âge n'a aucune importance au final, pour vous ?
C'est une bonne question.
la réponse, là, sera d'autant mieux.
Je pense que l'âge n'a pas trop d'importance pour le représentant, mais c'est surtout les idées.
Question également sur les territoires, et on va y revenir, et je m'adresse à vous, Salomé Arbaud, pour la Fondation des apprentis d'Auteuil. Ce sentiment d'exclusion, les jeunes ne le ressentent pas de la même façon en fonction de là où ils habitent.
Oui, tout à fait. Donc, il y avait notamment sur avoir le sentiment que la parole ne sert à rien. Pour les jeunes ruraux, c'était 7 sur 10 qui avaient ce sentiment de parole inutile, contre beaucoup moins pour les jeunes franciliens. Donc on voit que c'est des fractures qui sont beaucoup plus marquées pour certaines catégories de la population, pour certaines jeunesses. On a parlé aussi des jeunes qui sont ni en emploi, ni en études, ni en formation, qui ont encore plus le sentiment que leur parole ne sert à rien. Ou encore les jeunes femmes, qui vont se sentir moins informées que les jeunes hommes. Donc on voit qu'elles sont aussi... elles se sentent moins légitimes à prendre la parole et elles ont parfois aussi moins les codes. Donc c'est à nous, et en particulier de faire l'effort pour donner aux jeunes les codes pour s'engager derrière. Et on a parlé de construction de la politique publique, mais même si on ne va pas jusque-là, ça commence vraiment dès l'enfance, dans tous les lieux qui accueillent des enfants et des jeunes. Ça peut être des toutes petites choses. Je vous donne un exemple très concret.
Donnez un exemple.
Par exemple, dans un de nos établissements scolaires à Nantes, ce sont les enfants qui ont... réorganiser la cour de récréation, puisque quand ils arrivaient et quand il pleuvait, il n'y avait pas d'endroit pour les abriter, et les adultes ne s'en étaient jamais rendus compte parce qu'ils ne font même pas le même trajet que les enfants. Et donc, c'est prendre en compte le ressenti, la parole des jeunes dans leur quotidien, des toutes petites choses comme ça, et après qui amènent à pouvoir participer, se sentir considéré. Ça peut être des petites choses comme des grandes choses jusqu'à la construction de la politique publique, mais les concerter, et je fais écho à une question d'un auditeur plus tôt, c'est pas seulement en consulter, c'est après prendre en compte et appliquer ce qu'ils ont dit.
Merci de ce témoignage-là. Là aussi, pas mal de questions WhatsApp sur la santé mentale. Je vais peut-être me tourner vers vous, donc Nicolas Duvoux, cette jeunesse aujourd'hui qui a connu les crises multiples sanitaires, écologiques, économiques, avec quelles conséquences sur leur santé mentale aujourd'hui ?
Oui, la santé mentale des jeunes, elle est très affectée. Alors c'est des questions très complexes, hein, parce qu'on touche à l'intimité, on touche à la question du psychisme, de la personnalité, donc évidemment beaucoup de prudence dans l'interprétation, mais quand même quand on regarde les faits, on voit que d'abord la dégradation de la santé mentale des jeunes, et des jeunes femmes en particulier, parce qu'il y a un écart de genre qui est quand même très important, avec une situation beaucoup plus dégradée en termes de comportement autodestructeur, de tentatives de suicide chez les jeunes femmes.
De passage à l'acte aussi, idées noires, mais aussi des passages à l'acte.
Oui, mais les passages à l'acte, c'est compliqué, parce qu'il y a plus de passages à l'acte, mais il y a moins de réussite dans le passage, entre guillemets.
Et merci de mettre beaucoup de guillemets, faire
très attention. On touche à des choses très profonde, et beaucoup de personnes vivent très mal, et donc il faut évidemment respecter ça infiniment. Donc on voit une situation très dégradée, et on voit que la crise sanitaire, évidemment, la Covid, a fait changer d'échelle. Mais a fait changer d'échelle une tendance qui préexistait. Et ça, c'est vraiment un point quand même très important, c'est que ça révèle quand même une crise très large des modalités d'appartenance à la société, de construction de soi, et avec une incertitude, un flou sur comment se construire, comment se projeter. Donc c'était vraiment l'idée d'avenir confisqué, mais je vais revenir sur des déterminants matériels, mais il n'y a pas que du matériel. Le matériel joue beaucoup, parce que la dégradation de la santé mentale, il y a un effet de genre, mais il y a aussi un effet de position sociale, de ressources. Et je dirais l'exposition, enfin, il y a un terme un peu technique, mais il y a un certain nombre de difficultés, de pathologies qui sont vraiment beaucoup plus répandues chez celles et ceux qui sont les plus modestes. Et quand vous regardez, évidemment, il y a des cas qu'on connaît, le diabète. Le diabète, c'est une maladie qui est beaucoup plus répandue quand on n'a pas beaucoup de moyens. Et les troubles psychiatriques, c'est la même chose. On a une différence qui est exactement la même. Ça veut dire qu'il y a vraiment des conditions sociales qui font que dans un climat d'incertitude...
Qui déterminent des maladies...
Disons que dans un contexte d'incertitude généralisée, favorise l'émergence de difficultés et de santé mentale. Et ça, je crois qu'il faut vraiment dire ces choses-là de manière très forte, ce ne sont pas des difficultés qui sont une fatalité et qui ne sont pas liées à des troubles purement individuels. C'est que la société ne donne pas les repères, les perspectives, et un certain nombre de vos auditeurs qui ont pris la parole ont dit, le dernier notamment, la question du logement, de l'impossibilité de dire « je vais pouvoir me loger, trouver un toit sous lequel construire une vie, une famille. » Ça, c'est un point.
Sur ces marqueurs, suppression des APL, je pensais aussi à la suppression de l'aide à l'apprentissage tout récemment. Est-ce que les politiques sont en train de favoriser plutôt les seniors que les jeunes, dont ils se disent est-ce que c'est aussi flagrant que ça ?
Il y a quand même un certain nombre de marqueurs. Il y a même presque aujourd'hui une sorte, de tabou sur le fait d'ouvrir des protections générales de droit commun à 18 ans et d'aligner la citoyenneté civique et politique sur la citoyenneté sociale. Et ça, c'est quand même un vrai problème, parce qu'on a vu, quand il y a des crises, pendant la crise sanitaire, on a vu qu'il n'y avait pas de ressources pour beaucoup de jeunes. Et ça conduit à des situations de difficulté. En tant qu'enseignant du supérieur, on voit tous les jours que quand on n'a pas les ressources, on ne peut pas être dans la réussite éducative. C'est ce que Christelle a dit tout à l'heure. C'est ce que combat les apprentis d'Auteuil à sa manière.
Il nous reste assez peu de temps. On va prendre François qui est au Havre. Bonsoir, François.
Bonsoir, merci de prendre mon appel. Alors moi je rebondis sur ce qui a été dit précédemment, en fait on ne laisse pas du tout la place aux jeunes dans nos sociétés, même à l'échelon local, hein, qui commence par les municipales, donc les premières vies politiques. En fait on a le conseil municipal des enfants jusqu'à 12 ans, et après il n'y a plus rien. Et au niveau du conseil municipal, tous les postes sont trustés par les seniors, qui se réélisent d'année en année, et aujourd'hui il n'y a plus de représentativité. Donc moi ce que je suggère cette année, en 2026, on demande la parité, je souhaiterais qu'il y ait une plus forte représentativité, quitte avec des quotas, pour que les jeunes puissent être représentés dans les conseils municipaux.
Eh bien, merci de l'avoir dit ce soir sur France Inter. Vous parliez de la représentativité, on parlait de quelques marqueurs. J'en cite un, près de 8 jeunes sur 10 souhaitent s'impliquer davantage dans les thématiques qui concernent la jeunesse et son avenir. Christal Lopez, je rappelle que vous avez 25 ans. Est-ce que vous, ou autour de vous, des jeunes ont envie de s'impliquer, et est-ce qu'ils connaissent les circuits et les codes pour le faire ?
Oui, on est plusieurs, enfin, on est beaucoup à vouloir s'impliquer. Le problème, je pense aussi, c'est que c'est difficile vraiment au niveau du politique, tout ça, c'est difficile d'apprendre. Enfin, moi,
c'est pourquoi je parlais des codes et des circuits, parce que avoir l'envie est une chose, passer à l'acte est une autre. Et donc, vous discutez entre vous et dans les réseaux sociaux, vous discutez sur quel circuit pour finaliser, ce qui ne devrait pas rester qu'une simple ambition.
Au niveau des circuits, je sais pas. Après, moi, je sais que ça a été difficile pour moi de me mettre à la politique, parce que je viens d'une famille qui ne parle pas de politique. À l'école, c'est pas quelque chose qu'on parle vraiment souvent. Et ben, en fait, quand on arrive à 18 ans, qu'on doit voter et qu'on n'a jamais entendu parler de politique, c'est compliqué.
Salomé Arbaud, aux apprentis d'Auteuil, dont je rappelle que vous êtes engagé dans la protection de l'enfance. Apprendre la politique aux enfants, ça fait partie des leviers que vous mettez en avant ?
En tout cas, c'est surtout apprendre la participation. Et pour ça, et ça fait écho à la question qui a été posée avant, je pense que la balle, elle est vraiment dans le camp des adultes. Et si les auditeurs doivent repartir avec quelque chose, c'est ça. C'est à nous de changer de regard, à changer de posture. À Apprenti d'Auteuil, la question de la participation, ça fait vraiment partie de notre ADN. On a une formation à destination des professionnels, des travailleurs sociaux, pour qu'ils puissent organiser des espaces de dialogue. Et alors, c'est pas forcément de la politique, c'est vraiment apprendre à prendre sa place,
la citoyenneté.
À participer dans tous les espaces de vie. Et quand on l'a fait toute son enfance, après on se sent beaucoup plus légitime à le faire à l'âge adulte.
Vous le confirmez, le sociologue le confirme, je vois, il nous reste 20 secondes.
Le sociologue, il dit qu'il y a quand même beaucoup de manifestations d'engagement des jeunes. Après, il y a eu des émeutes en 2023 suite à la mort d'un jeune homme lors d'un contrôle de police. Les jeunes s'expriment de différentes manières par différents canaux.
Eh bien, merci d'avoir répondu aux auditeurs de France Inter. Le téléphone sonne, c'est terminé.